Mesdames et messieurs, bonsoir. Ce sont des militaires des FRDC qui désormais sécurisent les installations de la Cour suprême de justice à la place de la police nationale congolaise. Cette décision annoncée par le ministre de l'Intérieur a été prise hier mardi après le pillage et l'incendie de certains locaux de la Cour suprême de justice. Les autorités ont par ailleurs demandé à la MONUC et à l'EFOR de procéder sans tarder au désarmement de tous les éléments qui utilisent leurs armes dans la ville contre la population. Alors pourquoi avoir pris ces mesures et quelles réactions provoquent-elles? Ces mesures peuvent-elles empêcher de nouveaux affrontements? Ce sont là des questions que nous nous posons ce soir et comme toujours nos auditeurs ont déjà leurs opinions sur ces questions. Prince Hangi Abutembo écrit ceci: je constate que certains Kinois ne connaissent pas les méfaits de la guerre. Je pense qu'il faut un signal fort des autorités pour décourager les ennemis de la paix. Héritier Kantanga de Kananga au Kasaï occidental dit ceci: je demande aux politiciens congolais de ne plus nous distraire avec de telles décisions, car avant le second tour des élections, ils ont décidé que Kinshasa sera ville sans armes. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans cette ville? Ayez quand même pitié du peuple. Un auditeur anonyme écrit: désolé, notre pays est fort en matière de décisions, mais pour prévenir les dangers, il est très faible. Nous ne voulons plus de distractions. Junior de Kikwito Bandundu écrit: c'est une bonne idée de sécuriser la Cour suprême, car si la ville de Kinshasa brûle, les membres de la famille de Kabila ou Bemba seront toujours, eux, à l'abri. Pour Trésor à Kananga au Kasaï occidental, il y a plusieurs accords entre Kabila et Bemba, mais qui ne sont pas respectés. Ces décisions des autorités sont comme une goutte d'eau dans la mer. Cet auditeur termine en disant: Congolais, restons calmes. Ce sont là donc les quelques réactions des auditeurs et nos invités ce soir sont Amiral Liwanga, gouverneur de la ville de Kinshasa, Fidel Babala, directeur des cabinets de Jean-Pierre Bemba, Jacques Ebenga, colonel honoraire et ancien conseiller principal au ministère de l'Intérieur et de la Défense. Bonsoir à tous nos invités.
Bonsoir.
Vous voulez participer à l'émission? Envoyez vos SMS gratuitement de lundi à vendredi de 14h à 20h heure de Kinshasa au 099-999-222.
Encore une fois, bonsoir à vous tous qui nous suivez en ce moment. Nous parlons ce soir des mesures prises par les autorités après les pillages et l'incendie de la Cour suprême de justice hier mardi à Kinshasa. Comme vous le savez sans doute déjà, le ministre de l'Intérieur a déclaré hier après ces incidents que l'armée allait désormais sécuriser cette institution en lieu place de la police. Ensuite, le gouverneur de la ville de Kinshasa, dans une déclaration faite à la presse, a invité la MONUC et la force européenne EUFOR à procéder sans tarder au désarmement de tous ces éléments qui utilisent leurs armes dans la ville contre la population. Alors, Amiral Liwanga, vous êtes donc, comme je l'avais souligné, gouverneur de la ville de Kinshasa. D'abord, pourquoi avoir pris ces mesures?
Quelles sont les mesures que j'ai prises, madame?
Parce que vous avez demandé, par exemple, que la MONUC et l'EFOR puissent procéder sans tarder au désarmement de tous ces éléments qui utilisent leurs armes dans la ville contre la population. Et en tant qu'autorité, je pense que vous avez suivi ce qu'a dit le ministre de l'Intérieur, comme quoi les militaires devaient désormais surveiller la Cour suprême de justice.
Ok, madame, je voudrais avoir des questions précises pour que je puisse répondre nécessairement. Je n'ai pas pris moins de mesures, ok? J'ai déjà tout simplement averti que nous ne pouvons pas, que nous ne puissions plus connaître des agitations au sein de la population kinoise. Hein, que ici, d'ici là, partout, où il y a certaines manifestations même acceptées et tolérées ou autorisées que la population puisse utiliser des armes. Alors, la MONUC et le FOR et la police nationale congolaise et même notre armée, on a déjà eu un compromis pour que nous puissions contrôler la circulation des armes et désarmer les détenteurs illégaux. C'est le travail qui a été déjà fait, ce sont des mesures déjà prises, non par le gouverneur. Ces mesures-là sont déjà prises par cet espace-là de coordination entre toutes ces forces-là. Donc, ce n'est pas une mesure prise par moi. Je n'ai fait que rappeler, parce que hier, c'était pratiquement un ras-le-bol au niveau du conseil de la Cour suprême de justice. Je pense que vous savez que la justice, c'est quand même la Cour suprême de justice, c'est une institution de la République. Et on s'en sait, on a dû faire ce qu'ils ont fait hier. En tout cas, ça dépasse un peu tout entendement.
Oui, amiral.
Je n'ai pas pris une mesure quelconque pour tel. Mais si l'autorité ministérielle de l'Intérieur a pris certaines dispositions dans ce sens-là, c'est tout à fait normal. Parce que vous savez très bien que la MONUC, ce n'est pas la police, et l'EUFOR, ce n'est pas la police, ce sont des armées.
Oui, amiral Liwanga, mais on a vu quand même aujourd'hui déjà des unités de l'armée qui sont déployées dans la ville et dans certains axes tels que devant aux alentours de la Cour suprême de justice. Ce sont des mesures prises par les autorités. Pourquoi?
Tout à fait, parce que hier vous avez vu ce qui a été fait. La police a été dépassée. Hein, les autres ont utilisé leurs armes à feu. Et maintenant, l'autorité ministérielle de l'Intérieur a voulu remettre de l'ordre dans ce sens-là. Que maintenant, les autres utilisent les armes qu'on n'a pas encore désarmées, qu'on n'a pas encore repris par la coordination qui a été faite au niveau de cet espace EFOR, MONUC, FARDC et la police, pour qu'ensemble on puisse patrouiller et récupérer les armes aux mains des détenteurs non légitimes. Donc, je pense que vous avez vu l'ampleur des dégâts à la Cour suprême de justice. Devra-t-on assister encore à d'autres institutions ou à d'autres espaces de Kinshasa?
Oui, amiral Liwanga, qui sont ces détenteurs non légitimes des armes dont vous parlez?
Pardon?
Qui sont ces détenteurs non légitimes des armes dont vous parlez?
Les gens qui ont utilisé les armes hier, on ne les connaît pas. Ils étaient en civil, en tenue civile. Ok?
Oui.
Et ils venaient de quelque part, en présence de l'EFOR, en présence de la MONUC, en présence de tous les témoins.
Donc, jusque-là, selon vous, bon, ils ne sont pas connus, mais il y a des auditeurs qui posent quand même des questions par rapport à la mesure que vous avez prise, parce que vous dites qu'ils étaient en tenue civile.
Quelle mesure que j'ai prise, moi?
Que vous, en tant qu'autorité, donc que les autorités congolaises ont prise, je pense qu'en tant que gouverneur de la ville de Kinshasa, vous faites partie de ces autorités. Alors, il y a Lucha Ambujimai qui demande, la mesure prise, n'est-ce pas, une façon de faire un état des sièges longtemps préparé pour légitimer le pouvoir de fraude. Un autre auditeur, Chirac de Butembo Nord, qui vous demande également si le pays est en état de siège pour qu'on fasse recours à l'armée.
Non. Ces mesures-là, je ne sais pas, les mesures de mettre l'armée devant la Cour suprême de justice. Après que la Cour suprême de justice a subi des dégâts impossibles, on doit sécuriser quand même certaines institutions ou le reste et où le reste des institutions. C'est tout. On n'a pas déployé l'armée partout à travers la ville de Kinshasa. Donc, je crois que l'état de siège dont on parle, les gens circulent librement et même la Cour suprême de justice est libre de pouvoir décider à continuer les audiences ou le travail tel qu'ils ont continué. Mais au niveau de la Cour suprême de justice, le travail ne peut plus se faire, vu l'ampleur des dégâts. Peut-être on va essayer de délocaliser maintenant la Cour suprême de justice. Là, ce sont les autorités judiciaires qui vont décider là-dessus. Mais la ville de Kinshasa est libre. Les citoyens vont à leurs occupations, que ce soit les étrangers ou les nationaux. Donc, on n'a pas voulu faire quoi que ce soit. Et les militaires ne sont pas intervenus dans la décision de la Cour suprême de justice, non.
Hein? Oui, amiral, une autre question d'un auditeur, il s'appelle Jeannot, il nous écrit d'ici à Kinshasa. Il demande, comme vous parlez des désarmements, est-ce que les éléments de la garde du vice-président Jean-Pierre Bemba seront aussi désarmés?
Moi, je ne parle pas de désarmement. Je parle ceux qui commettent des actes inciviques avec des armes. On les voit par les gens de la MONUC et par le fort. Que cela puisse être désarmé. Et si ces gens-là qui commettent ces actes se trouvent auprès du vice-président Bemba, on peut les désarmer parce que, au lieu de garder l'autorité, la personne et les installations du vice-président Bemba, ils utilisent les armes pour aller à l'extérieur, en dehors des installations du vice-président, en dehors de l'autorité du vice-président Bemba, pour aller commettre des abus ailleurs, ce qui n'est pas normal. Et en tenue civile, on s'est habillé comme des rebelles. Si ces gens-là viennent de là, en tout cas, on doit tout faire pour les désarmer. Parce qu'à ce moment-là, ils ne se reconnaissent pas en tant qu'éléments d'une armée républicaine, comme on le veut.
Et qui doit les désarmer, amiral Luanga?
Pardon?
Et qui doit désarmer ces hommes-là?
Ce n'est pas à moi, madame, d'aller désarmer des gens. Non, non. Moi, je suis gouverneur de la ville de Kinshasa maintenant, mais je n'ai pas reçu mandat. Mais je pense qu'il y a des gens qui ont reçu mandat pour désarmer les gens qui utilisent les armes, qui circulent avec des armes illégalement. La MONUC, l'EFORT, la FARDC, la police. Je pense que cette coordination-là effectue des patrouilles à travers la ville de Kinshasa pour le faire. Ils peuvent le faire.
Oui, amiral Luanga, avant que nous puissions donner la parole à nos invités qui sont ici dans ce studio, disons que nous avons cherché la réaction de la MONUC à ces sujets, parce que vous invitiez effectivement, ce matin même on vous suivait sur Radio Okapi quand vous le disiez, que la MONUC et l'EFORT doivent désarmer les éléments qui utilisent leurs armes dans la ville contre la population. Alors, suivant la réponse du porte-parole de la MONUC, qui est M. Kemal Saiki, il est ici au micro de Babel Mpongo, suivant.
Moi, je n'ai pas entendu les propos qui ont été tenus par le gouverneur, donc je ne peux pas réagir directement. Et en règle générale, nous ne réagissons pas à les propos tenus par les officiels congolais. Ce que je peux vous dire, par contre, c'est qu'en ce qui concerne le désarmement, vous savez très bien qu'il y a des mécanismes congolais qui existent, notamment, par exemple, la CONADER, ou pour ce qui est du personnel militaire, le processus de brassage et d'intégration dans les forces armées nationales congolaises. Alors, je ne vois pas comment la MONUC pourrait s'impliquer dans un processus qui est un processus congolais, qui existe, qui est en train de se poursuivre, d'autant que nous avons déjà, en d'autres occasions, maintes fois répété que nous n'avions pas, par exemple, pour ce qui concerne les groupes rebelles armés et les groupes rebelles armés étrangers dans l'est du pays, que nous n'avions pas mandat à désarmer ces groupes. À plus forte raison, désarmer des éléments qui font partie, jusqu'à preuve du contraire, et c'est le cas des hommes qui constituent la sécurité de M. Bemba, qui font partie des FARDC. Donc je pense qu'il faudrait peut-être essayer de clarifier ces propos avec le gouverneur lui-même. Nous avons contribué à aider aux opérations de la CONADER, nous avons porté assistance aussi en particulier, par exemple, dans l'Ituri, dans le cadre du programme de désarmement, démobilisation et réintégration, fournit une assistance technique, mais procéder à un désarmement direct, non, ça ne fait pas partie du mandat de la MONUC.
Voilà, et de son côté, le fort comprend le souci du gouverneur de Kinshasa, mais jusque-là, le fort dit n'a pas encore été saisi officiellement. Et si cette demande devrait se faire, ce serait à la MONUC de solliciter l'intervention de l'effort, mais elle estime qu'un désarmement forcé serait difficilement envisageable, car elle ne correspondrait pas au mandat de l'effort. Le lieutenant-colonel Fizalba, porte-parole de l'effort, est également au micro de Babel Mpongo, suivant également.
Nous avons vu la déclaration de l'amiral Liwanga. Nous comprenons très bien son souci et le fait qu'il y ait des hommes armés en ville. Pour l'instant, il ne s'agit pas d'une requête officielle. Je rappelle que c'est la MONUC qui doit solliciter le fort. Pour l'instant, ça n'a pas été fait. Donc, nous attendons et nous étudierons éventuellement de quelle manière le fort peut s'appliquer en fonction de notre mandat, parce que nous avons un mandat très précis. Et en fonction, effectivement, de nos capacités.
Et s'il y a une demande officielle, comment réagirait le fort?
Comme toutes les demandes de la MONUC, c'est-à-dire lorsque nous avons une requête, nous étudions la faisabilité, nous rendons compte donc à Potsdam en Allemagne pour savoir quel est leur avis, et puis nous voyons de quelle manière nous pouvons nous engager. Donc aucune porte n'est fermée. Nous étudierons bien évidemment ces demandes si elles arrivaient. Et tout dépendra la nature de la requête de la MONUC. Il faudra, peut-être que ça ne sera pas une implication directe, peut-être que ça sera une sécurisation d'une zone ou un soutien logistique, auquel cas nous étudierons la faisabilité. Mais un désarmement physique, et je dirais d'autant plus s'il n'y a pas une volonté de l'autre partie de l'accepter, c'est très difficile de l'envisager car ça ne correspond pas vraiment à notre mandat.
Voilà, amiral Liwanga, vous avez suivi les deux porte-paroles, l'un de la MONUC et l'autre de l'EFOR. Votre réaction?
Oui. De toute façon, ils ont raison de ce qu'ils ont déclaré. Ils ont raison. Et moi, je dis ceci tout simplement. Voilà. Moi, en tant que gouverneur, je ne peux pas dire que les gens, que ce soit l'EFOR, que ce soit la police, que ce soit une autre force, que cette force-là puisse aller auprès du vice-président Bemba pour désarmer les hommes du vice-président Bemba. Je ne dis pas ça. Il n'est pas question qu'on aille désarmer les hommes du vice-président Bemba. Non, la garde, du moins, la garde reconnue. Mais ceux qui utilisent les armes dans les rues, dans les routes, en public, ceux-là, il y a un mécanisme. Ce mécanisme-là, il y a des patrouilles mixtes. Ces patrouilles mixtes-là regroupent les éléments de la MONUC, les éléments de FARDC, les éléments de la police, les éléments de la police, non, FARDC c'est la police militaire, qui sillonnaient la ville de Kinshasa pour désarmer les gens qui étaient porteurs des armes, hein, ici à Kinshasa. Donc ce mécanisme-là existe, à moins que je puisse me tromper, mais j'ai vu qu'on avait déjà récupéré quelques armes auprès soit des policiers, soit des militaires qui les portaient illégalement et qui circulaient avec ça à travers la ville. Donc si ce mécanisme-là existe, on peut en recourir. Parce que la Cour suprême de justice hier, ce n'est pas la résidence du vice-président Bemba. Si hier on a tiré, que ce soit à l'extérieur, que ce soit à l'intérieur, ces gens-là, on pouvait bien les arrêter et chercher à les désarmer. Voilà.
Oui, amiral Liwanga, comme je le disais, nous sommes dans ces studios également avec Fidèle Babala, qui est directeur des cabinets de Jean-Pierre Bemba. Alors, Fidèle Babala, les incidents d'hier qui amènent à ce que ces différentes mesures de sécurité soient pensées aujourd'hui, au fait, on indexe comme responsable de ces incidents, notamment des partisans donc de votre groupe et de votre camp, l'Union pour la Nation. Et par exemple, il y a Mouindo Kassaya Butembo, Vungi qui s'appelle, qui dit ceci: pourquoi les partisans de l'Union pour la Nation ont brûlé la Cour suprême de justice au Rifaël, attendre les résultats de cette Cour calmement? Cela montre qu'ils ne sont pas sûrs avec leur requête. Et pourquoi les partisans de Bemba se caractérisent par des actes de vandalisme? Quelles leçons des démocraties peuvent-ils donner? Ça, c'est l'Adi Mouimboa à Kalemi au Katanga, Fidèle Babala.
Merci, madame. Je suis d'abord heureux d'entendre l'amiral, je ne sais pas si je dois l'appeler amiral ou gouverneur de la ville. Je préfère gouverneur de la ville en circonstance. Il a pu modérer ses propos par rapport à hier. Je voudrais répondre d'abord, avant de répondre, préciser une chose. La Cour suprême est un symbole de la justice. Personne, parmi les Congolais ne pourrait être heureux qu'il y ait un incendie là-dedans, surtout d'origine criminelle. Nous regrettons ce fait et nous le condamnons avec la dernière énergie. Dès là, à faire des raccourcis avec les partisans, comme le dit le monsieur de Boutembo, notre auditeur de Boutembo, avec les partisans du vice-président Bemba, je crois que c'est un peu précipité comme position. J'aimerais rappeler que j'étais moi-même dans la salle sur les incidents d'hier, j'y reviens. J'étais dans la salle de 10h à 12h15. Quand nous avons évoqué la salle, il n'y avait aucun incendie. J'ai fait une corrélation avec un rapport, un communiqué de la MONUC hier. À 12h, la salle, le périmètre de la Cour suprême était sécurisé. Non seulement par la police du pays, par la PIR et par 150 hommes du contingent uruguayen de la MONUC. L'incendie de la cour est arrivé vers 14h. Si on doit croire le communiqué de la MONUC, l'endroit était sécurisé à 12h, à l'arrivée du contingent uruguayen. Qui a incendié la Cour suprême de la justice?
Et qui l'a pillé également, parce qu'il y a eu aussi pillage.
Également. Nous avons des photos, heure par heure, qui démontrent que l'incendie s'est propagé après 14h. En présence de la MONUC, de l'UPI et de la PIR.
Et vos militants n'étaient plus là devant la Cour suprême de justice?
Il n'y avait plus personne.
Et les images que nous avons vues à la télé, des gens qui criaient, nous venons de brûler la Cour suprême de justice, maintenant c'est bien fait pour eux, ils ne vont plus nous imposer, je ne sais pas quoi, je pense que vous avez vu les mêmes images.
Il appartient aux personnes, notamment le gouverneur de la ville, qui incombe la compétence de pouvoir assurer l'ordre public, ainsi qu'à la sécurité, de pouvoir mener des enquêtes pour savoir qui c'est. Les raccourcis avec les hommes du vice-président, les éléments des phares d'essai qui sont affectés à la garde du vice-président, est un peu facile. Et là, je suis heureux d'entendre le gouverneur de la ville ne pas faire cette allusion-là, bien que vers la fin, il y revienne. Je vous rappelle que depuis que, entre les deux tours des élections, le vice-président ainsi que tous les protagonistes qui sont impliqués dans l'organisation des élections, nous avons signé dans la salle juste à côté ici un accord sur Kinshasa sans armes. Les hommes qui sont affectés à la garde du vice-président sont cantonnés. Nous n'avions, en tant qu'union...
Ils sont cantonnés où?
Dans leur périmètre.
C'est-à-dire où?
C'est-à-dire à la résidence officielle et privée du vice-président. Je mets quiconque à défi de pouvoir... quiconque qui dirait que les hommes du vice-président... La garde du vice-président était aux alentours de la Cour suprême de pouvoir apporter la preuve. C'est trop facile de les dire.
Oui, Monsieur Babala, bon, effectivement,
J'aimerais terminer. Hein. Nous avions, en tant qu'Union pour la Nation, le plus intérêt à ce que la Cour suprême fasse un travail dans la sérénité. Nous n'avions aucun intérêt. Je vous rappelle que c'est nous qui avons introduit une requête en contestation de résultats des élections. Donc on n'avait aucun intérêt à ce que la quiétude et la sérénité du travail de la Cour suprême soient perturbées.
Oui, Monsieur Babala, vous avez bien fait de nous rappeler qu'il y a des actes d'engagement que vous avez signés avec que votre camp a signé avec les camps de Joseph Kabila, l'ANP. Mais effectivement, c'est pas la première fois qu'on indexe les gardes de Jean-Pierre Bemba des actes de vandalisme. Et je vous invite d'ailleurs à suivre ces rappels des faits de notre confrère Freddy Lufulobo.
À chaque étape importante du processus électoral, il y a souvent des incidents mettant en cause les éléments chargés de la protection des membres de l'espace présidentiel. Du 20 au 22 août dernier, les gardes de Jean-Pierre Bemba et ceux de Joseph Kabila se sont affrontés à l'arme lourde dans la capitale. Des affrontements qui coïncidaient avec l'annonce par la CEI des résultats provisoires du premier tour de l'élection présidentielle. La garde du vice-président a été également citée dans un échange de tirs à l'arme légère et lourde avec la police. C'était le samedi 11 novembre vers le cimetière de la Gombe, non loin de la résidence du vice-président Jean-Pierre Bemba. 10 jours après, selon l'AFP, des éléments armés venant de cette même résidence ont tiré sur la police qui tentait de disperser les sympathisants de Jean-Pierre Bemba devant la Cour suprême de justice. Alors que la Cour s'apprêtait à examiner le recours introduit par l'Union pour la Nation sur les résultats du second tour de l'élection présidentielle. Mais pourquoi autant de gardes de Jean-Pierre Bemba dans la ville de Kinshasa, notamment à Maluku et sur le boulevard du 30 juin? Tous les anciens chefs des mouvements politico-militaires devenus dirigeants des institutions de la transition, dont Jean-Pierre Bemba, ont droit à une garde rapprochée. Selon le mémorandum 2 sur la sécurité et la défense, annexé à l'accord global inclusif, chaque dirigeant concerné devrait garder autour de lui 108 éléments issus de sa propre branche armée. Mais la garde du vice-président Bemba est accusée d'être plus nombreuse que prévu et de refuser le processus de brassage. Accusation que réfute le camp Bemba, disant que les éléments commis à la protection du président Kabila sont plutôt les plus nombreux, nombrassés et qui sont même éparpillés à travers toute la République. La question qui se pose maintenant est celle de savoir comment éviter la répétition de tels troubles à chaque avancée du processus électoral.
Voilà, donc nous n'allons pas revenir sur toutes ces discussions parce qu'il y a eu des enquêtes qui ont été menées. Bon, on n'a jamais su où est-ce que ça avait abouti. Alors la dernière question là, comment éviter effectivement qu'il y ait pris des affrontements par-ci par-là, toujours autour de ces mêmes problèmes, M. Babala.
J'aimerais d'abord préciser un certain nombre de faits dans la chronologie tels que notre ami Freddy vient de le faire. Le 20 août, j'étais à Canal King, comme témoin oculaire encore une fois. J'ai vu d'où venaient les premiers coups de feu.
Oui, bon, on ne dit pas
je
la date,
pas entrer,
quoi,
je ne vais pas, je ne vais pas entrer là-dedans.
Qui a commencé, on n'entre pas là-dedans.
Oui. Ce n'est pas mon propos. C'est de dire qu'il faut, à un moment donné, qu'un journaliste fasse un travail objectif. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement qu'un journaliste a l'obligation de pouvoir rechercher l'information. C'est par raccourci que les gens disent qu'il y a eu affrontement. Mais on doit savoir qui est parti d'où pour attaquer qui. Hein? Ça, c'est un débat qui a eu lieu. Je crois que vous avez
raison de dire
qu'on ne doit pas y revenir.
On ne doit pas y revenir et on ne doit pas savoir qui a commencé. Mais le fait est là qu'il y a eu des échanges de tirs entre
les camps. Le samedi 11, madame, j'étais encore une fois témoin oculaire. Quand ça a commencé, ça n'a jamais commencé de manière hasardeuse. Apparemment, ce sont de faits qui sont préparés à l'avance. Je vous pose une question en réponse à tout ceci. Est-ce que pour disperser, est-ce que d'abord, une manifestation est-elle une infraction à la loi? Je vous rappelle que notre Constitution prévoit le droit à une manifestation suivant certaines formes. Quand il y a dérapage, la police intervient pour encadrer la manifestation ou arrêter les contrefacteurs qui font des personnes qui font des actes violents, des casseurs. Mais notre police est-elle formée pour faire face à des manifestations de masse? J'ai vu le samedi, le 11 novembre, je l'ai vu encore hier à la Cour suprême. La police était déjà nerveuse. D'abord, entre la section de l'UPI et la section de la PIR, il y avait mésentente. Je crois que vous devez le savoir si vous avez envoyé des journalistes là-bas. L'une des deux sections admettait que les journalistes entrent, l'autre refusait. Et puis la personne, disons les personnes qui ont commencé à tirer les premiers coups de feu, et je parle en qualité de témoin oculaire, c'était à 10h45. C'était la police.
Cette police qui n'est pas armée, monsieur Babala.
Comment ça pas armée? Comment pas armée? Ils ont lancé de lacrymogène alors que le manifestant était contenu, je crois, 500 mètres de l'entrée de la Cour suprême. Ils ont commencé à tirer des rafales en l'air. Ça, j'ai vu.
Oui, mais monsieur Babala, comment éviter à ce qu'on ne revienne plus à ces genres d'échanges des tirs entre des camps et où on laisse tout le temps
Il n'y a pas de camp. Je crois qu'il s'agit d'une manipulation à un moment donné de trouver par facilité que les gardes du vice-président tirent de façon désordonnée. Je vous rappelle, madame Munganga, que les hommes qui sont affectés à la garde du vice-président ont l'essence de la discipline. Ils connaissent la notion de la dissipation des munitions. C'est pas eux qui tireraient en l'air de façon désordonnée.
Vous l'avez dit. Alors, nous sommes dans ce studio avec le colonel Jacques Ebinga. Colonel Jacques Ebinga, donc, vous avez suivi effectivement la chronologie des événements. Il y a eu encore des incidents hier à la Cour suprême des justices, des incidents malheureux. Alors la question qu'on se pose, comment arriver finalement à éviter tous ces nouveaux, d'autres affrontements? Est-ce que les mesures par exemple que les autorités prennent à ces jours vont nous faire arriver à cela, à un climat apaisé?
Oui, Madame Breuil, j'aimerais d'abord constater avec regret qu'il y a comme une sorte de programmation de la mort de l'État. Tous ceux que je viens d'entendre ici m'indiquent qu'on veut quelque part créer un vide d'État, avec un vide de responsabilité, quand je vois que d'une part, la police qui était en faction devant la Cour suprême, c'est un petit groupe de policiers, 10 policiers à peu près, qui étaient là, qui n'avaient pas pu donc résister à la foule. L'UPI qui est venu, comme j'ai entendu hier, c'est une police de démocratie, c'est-à-dire qu'une police qui est sans armes et qui n'a même pas le minimum pour contenir les émeutes. La pire qui est venue, j'entends ici M. Babala dire que la pire et l'UPI n'étaient pas en coordination. Mais en tout cas, cette pire-là, quand elle est venue, elle n'a pas pris des mesures, je dirais, dissuasives. Parce que j'ai appris que les manifestants sont regroupés sur le boulevard du 30 juin pour revenir sur la Cour suprême. Ça veut dire quoi? On s'est contenté d'un dispositif défensif autour de la Cour suprême, mais il n'y a eu rien de dissuasif, plus loin que ça, ne fût-ce que sur le boulevard du 30 juin. La MONUC, le fort, se sont débinés, hein, parce qu'on l'a vu, ils sont partis. J'ai entendu ce matin M. Kemal Saïdi dire que ce n'est pas leur rôle de tirer sur la population, même si dans cette population il y aurait eu des gens armés, non identifiés. Les FARDC n'ont pas mission d'intervenir tant que la police ne les a pas invités à le faire. Voilà, nous sommes trouvés comme ça dans une situation où, se revoyant les responsabilités, il y a eu un vide d'État, un vide d'autorité. Donc, l'État s'est retrouvé devant une situation où ce sont les Cheguets et les terroristes. J'appelle ça des terroristes dans ce cas précis parce que ils ne sont pas identifiés. Donc nous sommes trouvés dans une situation de terrorisme, pas loin de ce que connaît la Somalie par exemple. Donc c'est cela notre problème actuel. Nous avons affaire à un groupe terroriste qui puise, qui a ses réservoirs dans certaines factions armées éventuellement, c'est à vérifier, mais en tout cas, il y a un phénomène terroriste qui se développe dans la ville. Et dans le pays peut-être aussi, parce que j'ai fissionné le pays, j'ai été dans certaines parties de l'Équateur, j'ai vu ces phénomènes-là également à l'Iskala et ailleurs. Donc cela veut dire que, quelque part, il y a un problème fondamental de l'autorité de l'État qui doit être rétabli, bien que tout le monde clame haut et fort dans tous les discours qu'il faut rétablir l'autorité de l'État, mais apparemment, on sape cette même autorité de l'État.
Mais maintenant qu'on fait recours à l'armée pour protéger, au fait, cette institution, la Cour suprême des justices, n'est-ce pas une réponse ou bien une reprise en main de la situation par les autorités?
Oui, écoutez, l'armée n'a pas comme mission première, d'intervenir dans le maintien d'ordre public. Ça, c'est connu. Parce que l'armée n'est pas préparée à cela, psychologiquement, ni du point de vue de l'armement. L'armée vient intervenir dans un conflit armé quand il s'agit de tuer et non pas d'emmener les gens en justice comme le ferait la police. Donc la mission de l'armée est tout à fait différente. Mais si l'armée arrive à le faire, c'est parce que la police elle-même n'est pas encore suffisamment organisée ou encore elle panique. On nous a parlé de la panique de la police. On a vu des policiers abandonner l'uniforme. Donc la police a paniqué, elle a débandé et par conséquent l'armée qui aujourd'hui n'a pas les forces préparées à le faire, devait intervenir, est appelé à intervenir. Je crois qu'on ne doit pas trouver du mal à ça parce que si on veut que l'État existe et que les symboles de l'État tels que la Cour suprême de justice aujourd'hui se trouvent être suprêmement, bafoués comme on l'a vu, je crois qu'il faut que l'État se ressaisisse par tous les moyens possibles, y compris l'armée, mais quitte à ce que cette armée n'intervienne pas de manière anarchique et à créer un désordre encore plus grand au sein de la population.
Bon, maintenant on parle également des mesures, par exemple des désarmés, tous ces fauteurs des troubles, pensez-vous que on va cette fois-ci y arriver parce que c'est pas aujourd'hui qu'on a pris ces mesures-là?
Ben, c'est le même problème, on se renvoie la balle, on ne sait pas qui peut le faire, l'armée est casernée, on a décidé de casernement l'armée, donc l'armée et le FARDC ne peuvent pas sortir pour aller les armées, ils n'ont une unité de FARDC. La MONUC dit que ce n'est pas son mandat, le fort dit qu'elle attend que la MONUC l'appelle pour faire une quelconque opération. Voilà, on tourne en rond et il n'y a pas une responsabilité, à part les patrouilles que nous voyons, qui sont les patrouilles diurnes d'ailleurs, en circulation, donc qui se saisissent des militaires armés, illégalement armés, en circulation. Mais ceux qui ne sont pas en circulation, ceux qui sont cantonnés à tel ou tel endroit de la ville, ou qui cachent leurs armes chez eux, ceux-là ne sont pas inquiétés par ces patrouilles. Voilà une faille qui nécessite une globale vision de ce désarmement.
Oui, Amiral Luanga, est-ce que les mesures qui ont été prises peuvent empêcher de nouveaux affrontements dans la ville de Kinshasa?
Non, en tout cas, en ce qui nous concerne, nous n'avons pas pris de mesures, nous avons prévenu les gens. Nous prévenons les gens que nous ne pouvons plus accepter d'assister impuissamment vis-à-vis de ces actes de provocation. Aujourd'hui ici, demain là-bas et ce genre de choses prennent la population en otage. à tel point que des rumeurs circulent et la population s'agite à chaque instant. Donc ça c'est très très important. Donc on prévient déjà les gens que non, dorénavant ça ne sera plus le cas. Si on commence à tirer, à utiliser les armes à feu contre la police, c'est une insurrection armée, c'est une rébellion. Et l'armée est contre l'insurrection armée, contre la rébellion dans la ville. L'armée peut intervenir.
Oui, Monsieur Fidèle Babala, vous êtes directeur des cabinets du vice-président Jean-Pierre Bemba. Et chaque fois qu'il y a des échappereux comme ça dans la ville, on court tout de suite en index les gardes du vice-président Jean-Pierre Bemba. Il y a eu des propositions qui avaient été faites comme quoi il fallait déloger ces gardes-là et les cantonner quelque part. Mais ne pensez-vous pas que ce serait une bonne solution pour éviter finalement que chaque fois qu'il y a des incidents par qu'on puisse indexer ça, sa garde.
Madame, j'aimerais d'abord être assez précis. Hein. Le vice-président est gardé en vertu des accords. S'il y a eu des incidents, il y en a eu, vous avez cité tout à l'heure le 20 août, les personnes qui ont attaqué la résidence et les chaînes de télévision du vice-président venaient quelque part, nous le savons tous. Ces personnes, vous avez parlé de la GCSP. Il y en a 14 000 dans le pays. Ils sont disséminés à travers tous les pays. Or, la mission constitutionnelle de la garde républicaine, c'est de protéger le président de la République. Voulez-vous me dire, madame, si le président de la République habite au beach pour voir de la GCSP là-bas, ni au marché, ni dans les ponts? Il y a un problème global. Je crois que mon co-invité de ce jour a posé le problème de manière globale. Nous assistons depuis un temps à un déni des responsabilités de la personne qui sont chargées du maintien de l'ordre dans la ville de Kinshasa ici. Nous avons vu hier une police débordée par les manifestants alors que cette police est censée avoir été formée pour faire face aux manifestations qui, avec les vertus démocratiques, ne manqueraient pas.
Mais pas quand dans le groupe des manifestants, il y a quand même des hommes armés.
Je vous dis encore une fois que j'y étais, madame. Jusqu'à 12h15, je n'ai vu aucun homme armé en civil.
Et c'est qu'on a vu à la télé, comme est-ce que...
Je vous parle de ce que j'ai vu.
Face à des gens qui tiraient.
Madame, je vous parle de ce que j'ai vécu en tant que témoin oculaire. Je vous ai dit tout à l'heure aussi que j'ai suivi sur une chaîne de télévision, sur Euronews, les images de Bado qui portait des effets venant de la Cour suprême. J'ai vu ça aux images après. Je me demande, au vu de la chronologie telle qu'établie par la MONUC, qui a fait ça? On devrait arriver à établir clairement les faits. Vous savez, dans notre pays, on passe trop facilement à la condamnation, à des récriminations. On ne remonte pas jusqu'aux causes, jusqu'aux raisons. Il faut faire une mission d'enquête. Déterminer où étaient les failles, d'abord au niveau de la police qui était chargée d'assurer la sécurité de la zone, parce qu'il y en a eu des failles. Établir des responsabilités, punir, pour pouvoir redresser demain. J'ai entendu tout à l'heure le gouverneur de la ville dire qu'on a appelé l'armée. Les risques de telles décisions, c'est ce que mon collègue de gauche vient de le dire, c'est l'armée n'est pas formée pour canaliser les manifestations, pour contenir les manifestations.
Oui, mais...
Est-ce que sommes-nous en train de préparer un bain de sang à la prochaine manifestation devant la Cour suprême?
Mais
c'est la question que je pose et au gouverneur de la ville et au ministre de l'Intérieur.
Mais jusque-là, M. Babala, vous ne t'avez pas dit là, la solution pour que chaque fois on n'indexe pas les gardes de Jean-Pierre Bemba, qu'est-ce qu'il faut faire?
Qu'est-ce qu'il faut faire? Oui, c'est que chacun fasse son travail.
Oui.
Moi, mon travail n'est pas de faire... la réflexion à la place des personnes qui sont politiquement et juridiquement responsables de la situation du maintien de l'ordre et de la sécurité dans le pays ici, surtout dans la ville. Mon travail, c'est de faciliter administrativement le vice-président Bemba dans ses fonctions de vice-président.
Oui, Amiral Liwanga, vous avez suivi M. Babala, il vous a posé une question. Est-ce que le fait de déployer des unités, l'armée, devant par exemple l'institution, devant la Cour suprême de justice, s'est préparé un bain de sang dans la ville de Kinshasa?
Mais pourquoi préparer un bain de sang? Ça c'est dans les intentions de ceux qui entretiennent... certaines idées dans leur tête. La MONUC est constituée de la police ou des éléments armés. La MONUC, ce sont des armées des pays qui se retrouvent là-bas. Le fort, ce n'est pas la police européenne. Ce sont des forces armées qui sont venues ici. Et quand ils circulent, est-ce qu'ils sont en train de préparer un bain de sang? Pourquoi, si on parle de votre armée, qui n'est pas déployée, votre armée, les forces armées de la République démocratique du Congo, ont été appelées tout simplement pour protéger la Cour suprême de justice maintenant là? Et la CEI, c'est tout. On n'a pas déployé l'armée partout à travers la ville de Kinshasa. Hein? Et quand vous voyez les armées étrangères, il n'y a pas une préparation de bain de sang. Avec toutes les armes, toutes sortes d'armes qu'ils portent. Donc ce n'est pas un préparatif de bain de sang. Quand vous voyez votre propre armée se déplacer pour sécuriser, protéger une institution, on parle de préparatifs de bain de sang.
Oui.
Je ne sais pas si c'est cela ce qu'on pense, mais je pense que vous devez savoir, tout le monde doit savoir que la République démocratique du Congo dispose d'une armée. Et l'armée est déployée au niveau de la Cour suprême de justice, pas pour l'ordre public, pour maintenir l'ordre public, pour sécuriser maintenant l'institution et la protéger.
Oui, Amiral Luanga, merci pour cette intervention. Nous tendons vers la fin de cette émission. Alors nous allons demander brièvement à M. Babala de réagir. Et enfin, nous donnerons la parole au colonel Jacques Edinga. M. Babala, dans 30 secondes, votre réaction pour la fin de cette émission.
Merci Madame Muganga. J'aimerais juste rappeler que nous avons tous intérêt dans ce pays. Nous avons majoritairement opté pour la démocratie. Nous devons avoir des attitudes liées à cette option politique que tous nous avons prise, nous l'avons confirmée par les dernières élections. Il faut que non seulement les forces de police, les forces d'armée, soient entraînées pour faire face à cette nouvelle donne. Quand le gouverneur de la ville, qui par ailleurs est militaire, je vous le rappelle, bien que ce soit contraire à la Constitution, dit qu'il n'y a pas de déploiement, vous passez devant la Cour suprême, vous voyez un dispositif militaire. Par la formation de l'armée actuelle, nous avons un risque potentiel avec la population. J'ai dit, j'ai terminé.
Oui, colonel Jacques Benga également brièvement.
J'aimerais seulement demander à monsieur le directeur Babala de ne pas inviter la population à aller massivement assister à une séance judiciaire. Qui n'est pas une chambre foraine, que je sache jusque-là, qu'elle vienne manifester pacifiquement, je comprends encore, mais il ne faut pas que tout le monde entre dans la salle pour aller écouter ou participer au débat de la Cour suprême, parce que là, ça pourrait également enfreindre aux bonnes règles de la justice.
Merci beaucoup à tous nos invités. Cette émission prend fin par là, et au nom de toute l'équipe des dialogues entre Congolais, nous vous disons merci de l'avoir suivi. Thank you.